Bah, bonjour à chacun d'entre vous, à ceux que j'ai pas pu voir en entrant. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Je suis en ce moment en train d'étudier le livre de la Genèse et je dois vous dire que je suis surpris par la richesse et l'importance de ce livre. C'est Jean Calvin qui dit dans sa préface, dans son commentaire du livre de la Genèse, il dit « Le premier livre de Moïse, dans la Genèse, mérite d'être tenu pour un trésor inestimable, qui pour le moins nous donne la certitude infaillible de la création du monde, sans laquelle nous ne sommes pas dignes que la terre nous soutienne. » Je vous donne une petite introduction pour vous mettre l'eau à la bouche, vous donner envie de lire ces livres, donner envie de creuser un peu plus. Peut-être, c'est une série en fait que je suis en train de faire personnellement. Peut-être nous n'allons pas le faire jusqu'à la fin, mais j'aimerais juste vous encourager à continuer la lecture chez vous et profiter de la richesse de ce livre. Alors, pourquoi est-ce que ce livre de la Genèse est-elle importante? Pourquoi la Genèse est importante pour nous? Deux points. Premièrement, parce que c'est la clé d'entrée dans la Bible. Enlever le livre de la Genèse et les 65 autres livres de l'Écriture deviennent complètement incompréhensibles. Incompréhensibles. Par exemple, comment est-ce que vous allez comprendre Paul lorsque dans l'acte 17, il s'adresse aux Athéniens et il dit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre » n'habite point des temples faits de mains d'âme. En sachant qui il est, en sachant ce qu'il a fait, ça change la manière de l'adorer, n'est-ce pas? Pas besoin de petites idoles, pas besoin de construire des temples à sa gloire, parce qu'il a fait le ciel et la terre. Ou bien, comment allez-vous obéir aux paroles de cet ange dans l'Apocalypse qui crie à grande voix? Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Adorez celui qui a fait toutes ces choses. Donc ce livre est vraiment important pour nous pour comprendre le sens de tous les autres livres de la Bible. Deuxièmement, pourquoi est-ce que le livre de la Genèse est important pour nous et pourquoi est-ce que vous devez le lire et creuser ce livre chez vous? Parce que ce livre contient des informations vitales sur le commencement des choses. Il est souvent appelé le livre des origines. Sans cette révélation, on ne pourrait pas savoir qui nous sommes, on ne pourrait pas comprendre notre identité. Qui sommes-nous? Sommes-nous des animaux, comme certains disent? Et si nous sommes des animaux, pourquoi est-ce que nous sommes différents des autres animaux? On ne pourrait pas non plus comprendre le sens de la vie. Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? Pourquoi sommes-nous là? Est-ce que nous ne sommes pas dans un simulateur géant, créé par des extraterrestres? Ce sont des questions que les gens se posent. Le sens de la vie, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? On serait encore moins notre destinée. Qu'est-ce qu'on deviendra? Pourquoi la mort? D'abord, pourquoi est-ce que nous sommes obligés de naître si on doit mourir plus tard? On ne comprend pas, n'est-ce pas? Et le livre de la Genèse nous donne des informations sur toutes ces choses. Et en lisant ce livre, nous aurons des réponses du coup sur l'origine de l'univers, l'origine de l'ordre et de la complexité, l'origine de la vie, l'origine de l'homme, on aura des informations dessus. L'origine sur le mariage, du mariage, l'origine du mal et de la souffrance. Mais on verra aussi l'origine du gouvernement, l'origine de la culture, l'origine des nations et des diverses langues. L'origine de la religion, pourquoi tant de religions? Pourquoi l'homme est aussi religieux au fond de lui? Qu'est-ce qu'il cherche? Et enfin, on verra l'origine du peuple choisi de Dieu, du peuple d'Israël, pour comprendre le contexte dans lequel Dieu agit, le contexte dans lequel se déroule la plus grande partie du plan de rédemption de Dieu qui vient se livrer à l'humiliation des siècles plus tard à Jérusalem. Vous voyez comme moi que ce livre est le fondement de toute l'histoire, de toute science et de toute philosophie qui se veut être vraie. N'est-ce pas? Voilà l'importance du livre de la Genèse. Et si vous n'avez pas l'occasion de creuser, c'est vraiment l'occasion de le lire. Vous serez vraiment béni. Ce que je vous propose ce matin, c'est de commencer au début du livre, au premier chapitre du livre de la Genèse, de lire avec moi. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces et ayant en eux la semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin et ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi des étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider le jour et la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin et ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa des grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux ailés selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: Soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Et ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leurs espèces, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leurs espèces, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. Et ce fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le sixième jour. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je vais essayer de ne pas vous faire un débat scientifique ce matin, c'est vraiment pas mon objectif. Il faudrait pas que ce soit un peu compliqué pour vous, ce seront des trucs très simples. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre à travers ce texte de Genèse 1? C'est un texte qui fait beaucoup polémique. Tout architecte qui se respecte vous dira que la fondation, les fondements d'une maison sont la base de sa solidité. Négligez cette étape et vous pouvez être sûr que votre maison ne tiendra pas. Deux experts qui ont accompagné le ministre du Logement à Marseille, dans le quartier où les immeubles se sont effondrés en novembre dernier et qui a fait 8 morts, ont déclaré que ces immeubles avaient été construits sans fondation. Je vous assure, les murs étaient carrément posés sur le sol. Et on comprend pourquoi c'est tellement important que le Seigneur commence à poser des fondements dans notre vie. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La première phrase de la Bible. Et je vous propose aujourd'hui de s'arrêter juste là, à ce premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Une très petite phrase, très simple. C'est pas du tout compliqué. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas, tout simplement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'y a pas d'autre option. Pourtant, cette vérité qui est le fondement de la vie de tous les chrétiens se trouve être le verset le plus controversé, l'affirmation la plus controversée de notre siècle. Dieu créa les cieux et la terre. Un petit clin d'œil à la France qui fête aujourd'hui sa fête nationale. Si vous avez fait l'école de la République, ou bien en discutant avec un voisin, on vous a sûrement dit que la foi, c'est pour les faibles d'esprit, les ignorants. La foi, c'est pour des gens qui n'aiment pas argumenter. Les scientifiques nous ont expliqué comment la Terre, Dieu, a été créée. Dieu n'existe pas. Tout ça est dépassé. Au commencement, il y avait une petite boule, pas plus grosse qu'une tête d'épingle, qui a explosé, qui contenait tout ce que l'univers contient actuellement et qui nous a donné tout ça. Vous avez sûrement entendu ce genre d'argument, n'est-ce pas? Moi, oui, et je vous avoue que parfois, je ne savais pas quoi répondre. C'est tellement. Waouh, il n'y a rien à dire. C'est spécial. Une tête d'épingle. Un scientifique athée très connu en Angleterre, Richard Dawkins, il s'appelle, il dit ceci sur la foi chrétienne. Il dit, la foi est la plus grande échappatoire qui soit. L'excuse ultime permettant de se soustraire à la nécessité de réfléchir et d'évaluer les éléments de preuve à disposition. Avoir la foi, c'est croire en dépit, ou même peut-être à cause d'un manque de preuves. En même temps, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi que nous le croyons. Comment faire face à ce genre d'objection? N'avons-nous pas fait une grosse erreur là, en nous abandonnant comme ça à quelque chose de fictif? Bonne question, comment savoir que c'est vrai? Puisque c'est effectivement par la foi que nous croyons que Dieu a créé les cieux et la terre. Comment en être sûr? Je vous propose ce matin trois points pour vous encourager à rester inébranlable et fondé dans cette vérité. Restez vraiment fondé dans cette vérité et pour vous permettre aussi, si vous êtes peut-être en réflexion, vous poser des questions, de pouvoir avoir des pistes pour pouvoir réfléchir sur ce sujet. Est-ce que Dieu est vraiment ce qu'il dit être? Est-ce qu'il a fait les cieux et la terre? Trois points. Premièrement, la première chose que la Bible nous demande, c'est un acte de foi. C'est de croire que par la foi, il a créé les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui, c'est vrai, parce que la Bible le dit en noir sur blanc. Nous le croyons. Nous croyons que tu as formé les cieux et la terre. C'est un acte de foi. Je suis d'accord. Et on ne peut pas vivre une relation avec Dieu qui ne soit pas fondée sur la confiance. Une relation sans confiance n'est vraiment pas une relation, c'est une image imparfaite. Mais imaginez un peu votre relation peut-être avec votre conjoint ou avec un ami qui n'est pas basé sur la confiance. Mais c'est un mensonge terrible, c'est une horreur, c'est un fardeau. Et la première chose que Dieu nous demande, c'est de la confiance, c'est de la foi. Au commencement, tu as créé les cieux et la terre. Mais avec Dieu, c'est différent. C'est pas comme si on était en relation avec un ami, avec un homme. Lui, il est Dieu. Nous sommes des hommes. Nous sommes finis. Lui, il est infini. Nous, on n'est même pas capable de prendre soin de nous. Lui, il nous connaît mieux que nous-mêmes. On se remet complètement à celui-là qui nous a fait et nous le croyons sur parole parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est bien un acte de foi et c'est la première chose que Dieu nous demande, la foi, la confiance. Mais il faut que vous sachiez que la Bible n'essaie jamais, mais vraiment jamais, de prouver l'existence de Dieu. Vous ne verrez pas ça dans le livre de la Genèse. Nulle part dans le livre de la Genèse, Dieu n'argumente, encore moins dans le reste de la Bible. Il n'argumente jamais. À chaque fois qu'il aborde ce sujet, il se contente de traiter de stupides ceux qui sont incrédules. On a envie de dire, mais Seigneur, tu nous mets dans une position compliquée. Non seulement tu n'argumentes pas, mais en plus tu traites de fous tous ceux qui ne croient pas. Nous sommes dans une position compliquée, mais je pense qu'il y a deux raisons à cela. Deux raisons pour lesquelles la Bible n'essaie jamais de prouver l'existence de Dieu. Et c'est important pour nous de le savoir. Premièrement, je pense que c'est parce que c'est tout simplement évident. Évident, c'est évident. Vous voulez des preuves? Ils sont partout. Regardez dehors. Regardez dehors, regardez la création, les arbres, les animaux, les oiseaux qui passent, les cigales qui chantent. Regardez-vous dans un miroir et vous verrez l'artiste Dieu. Imaginez qu'un membre éloigné de votre famille, qui est un menuisier populaire, veuille se faire connaître à vous. Comment est-ce qu'il pourrait faire? Alors, il envisage de créer une table, de la sculpter minutieusement, et il vous l'envoie cette table. Quand vous allez recevoir cette table, qu'est-ce que vous allez vous dire? La première chose que vous allez vous dire, c'est ceci. Ah, quel excellent menuisier! Je suis tellement rempli de joie de découvrir qu'il existe encore un homme de cette qualité. Quand on voit la table, quand on voit le chef-d'œuvre, on voit la personne qui est derrière, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez prendre cette table et vous dire, ah, c'est le hasard qui l'a fait? Non, c'est pas possible. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît pas chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses. Job. Ce ne sont pas les preuves qui manquent. C'est pourquoi Dieu est aussi sévère avec les incrédules dans l'épître de Paul aux Romains. Lorsqu'il dit en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Inexcusables. Je ne crois que ce que je vois, alors ouvre les yeux et tu verras. Deuxièmement, pourquoi est-ce que la Bible n'essaie jamais de prouver l'existence de Dieu? Je pense que la deuxième chose, c'est parce que tout n'est pas d'abord une question de preuve. Depuis le début de la modernité, on nous a fait croire que la raison est au-dessus de tout. Et qu'en réfléchissant, on arrive à la vérité. Mais c'est un mensonge. Je pense que tout n'est pas d'abord une question de preuve. C'est pour ça que la Bible ne commence pas par là. Les preuves viennent après. Mais tout, selon la Bible, est d'abord un penchant. C'est d'abord le problème du penchant du cœur, de l'âme. Je vous explique. Deux scientifiques astronomes qui étudient le processus de formation des étoiles, un scientifique chrétien et un autre athée qui étudient le même processus. Alors, le scientifique chrétien est merveillé derrière la complexité et l'intelligence derrière le processus, s'écrie « Ah Dieu, tu es grand, tu es tellement grand, je sais pas quoi dire, je ne peux que te donner la gloire qui te revient, je suis tellement infime devant toi. » Et en même temps, les scientifiques athées observe le même processus et la même intelligence derrière la chose et s'exprime. Ah, c'est incroyable! Finalement, la nature nous réserve des surprises. Le hasard a fait tout ça en 10 milliards d'années. Je suis désolé, prenez des lettres de l'alphabet, jetez-les dans une salle, fermez la porte, attendez 100 milliards d'années ou 200 milliards d'années si vous voulez. Vous n'allez pas retrouver des livres racontant une histoire cohérente rangés dans des étagères par ordre alphabétique. C'est incroyable ce que c'est que la foi en le hasard, n'est-ce pas? Mais les gens sont capables de vous dire ça. Et je vous assure que cette bibliothèque n'est rien comparé à la création de Dieu. Prenez juste la position de la Terre. Si cette Terre recule d'un seul centimètre, nous sommes tous gelés. Si elle avance vers le Soleil d'un seul centimètre, mais on va tous cramer. On ne peut pas subsister. Qu'est-ce qui la maintient dans cette position? Sachant qu'elle tourne non seulement autour d'elle-même, mais tourne aussi autour du soleil. Et elle le fait depuis des années et des années. Qu'est-ce qui la maintient à cette position? C'est tellement précis. On dirait même un poulet qui tourne à la rôtisserie. C'est incroyable. Mais c'est vraiment incroyable. Qui ne reconnaît pas la main de l'Éternel derrière ces choses? Le hasard. Pour des gens qui ne croient que ce qu'ils voient, c'est étonnant. Ils croient au hasard qu'ils ne voient pas. C'est devenu le nouveau faux dieu du siècle. Quand rien n'existait, le hasard, il existait apparemment. Mais ça ne dérange personne parce que le hasard est inoffensif. On est prêt à tout pour ne pas avoir affaire à Dieu. C'est une question de penchant de cœur d'abord. On est prêt à tout pour ne pas avoir affaire à Dieu. Jusqu'à quand va-t-on fuir? Ce ne sont pas les arguments qui nous feront changer d'avis. L'homme est tout simplement en rébellion contre son Créateur. Rien de rationnel. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance, par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part, dit le prophète Jérémie. Rien n'est étonnant de ta part. Revenons à nos deux scientifiques. Qu'est-ce qui s'est passé pour que deux personnes étudiant le même processus, devant la même intelligence, arrivent à des conclusions complètement différentes? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, l'évolution, le hasard, c'est vraiment ça le point. Écoutez bien. Chaque homme, si vous voulez, est comme On peut dire une calculatrice. Excusez-moi de l'image. Chaque homme est comme une calculatrice pour faire des additions, des soustractions, des divisions, des multiplications, a besoin de chiffres et de nombres, n'est-ce pas? À chaque fois qu'elle utilisera ces chiffres et ces nombres, elle vous donnera toujours des opérations, des calculs plutôt cohérents et vrais. Mais ce que cette calculatrice ne peut pas vous dire, c'est pourquoi est-ce que les chiffres et les nombres qu'elle utilise sont vrais. Elle ne peut pas vous le dire. Ça dépasse son domaine de compétence. Elle accepte par la foi comme vrai pour pouvoir arriver à des résultats vrais. N'est-ce pas? Et l'homme, exactement comme ça, nous ne sommes pas créés pour être autonomes dans la pensée. Nous ne sommes pas créés pour être autonomes. On en a toujours besoin d'un cadre de foi pour pouvoir vivre, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir penser. Et c'est pour ça que la Bible commence par ce verset qui est une déclaration de foi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les philosophes appellent souvent ça un présupposé. Ce scientifique chrétien, parce qu'il croit en Dieu, voit la main de l'Éternel derrière tout ce qu'il étudie. Il regarde ces choses exactement comme vous, vous regardez un tableau dans un musée. Ah, que celui qui a fait est grand. C.S. Lewis fait cette belle remarque. Il dit, pourquoi les hommes sont devenus des scientifiques? Il dit, parce qu'ils s'attendaient à trouver des lois dans la nature. Ils s'attendaient à trouver des lois dans la nature car ils croyaient en un législateur, Dieu. On a besoin tous d'un cadre de foi pour pouvoir vivre et expliquer tout autour de nous. Et les scientifiques athées avec lesquels s'identifie la majorité des Français ont aussi une foi. Ils ont aussi un cadre de foi qu'ils ne peuvent pas vous expliquer. Ils vous diront par exemple, tout ce qui existe, c'est ce que je vois. Mais ils peuvent pas vous le prouver. Ils peuvent pas vous le prouver. Parce que pour pouvoir le prouver, il faut pas simplement voir. Il faut plus que voir. C'est comme si un microbe vous disait, tout ce qui existe, c'est ce que je peux voir. Vous avez envie de dire au microbe, mais qu'est-ce que tu en sais, toi? N'est-ce pas? On ne peut pas, en tant qu'être humain, être autonome dans la pensée. Et ainsi, dans leur cadre de foi, ils ne peuvent pas arriver à la conclusion Dieu. Ils ne peuvent pas arriver à cette conclusion parce que dès la base, ils ne veulent pas le voir. Quelle que soit la méthode qu'ils utiliseront pour faire des expérimentations, pour pouvoir prouver si Dieu existe ou pas, cette méthode présupposera toujours que Dieu n'existe pas. Donc, c'est un cercle vicieux. Ces gens ne veulent pas d'un Dieu. Ce n'est pas une question de preuve, mais c'est une question de penchant de cœur. Un cadre de foi. Ce n'est pas relationnel, ce n'est pas le produit d'un travail intellectuel. C'est le produit d'un désir profond du cœur. Nous ne voulons pas d'un Dieu. Nous ne voulons pas de Dieu. Dont l'athéisme est basé sur une foi, et les gens adhèrent facilement à cette confession de foi parce qu'ils veulent vivre selon les désirs de leur propre cœur. Sans avoir un juge. Sans avoir un juge. C'est une foi aveugle. Ils avancent les yeux cachés en se persuadant qu'ils sont sages et intelligents. Mais pourtant, c'est qu'une confession de foi aveugle. Nous étions comme ça. Et nous sommes reconnaissants que le Seigneur est venu, il nous a sortis de ce mensonge, il nous a mis face à cette vérité. Moi, je vous ai fait. Moi, je vous ai fait. Et vous, vous êtes révoltés contre moi. Tu mérites ma colère. Mais mon amour est encore plus grand que ça. J'ai donné ma vie pour que tu sois réconcilié avec moi. Dit celui qui a fait les cieux et la terre. Et dès lors, nous vivons par la foi. Par la foi en tout ce qu'il dit. Et c'est vraiment ça la différence. C'est pas une foi aveugle comme l'athéisme. Ça n'a rien à voir avec une. C'est une foi qui est vérifiable. C'est toujours C.S. Lewis qui donne cette belle citation. Il dit: Je crois au christianisme comme je crois au lever du soleil, non pas parce que je le vois, mais parce que grâce à lui, je vois tout le reste. Maintenant, parce que nous croyons à Dieu, tout s'explique, tout devient clair. On comprend pourquoi on a tant de mal à gérer le mal, la souffrance, la mort. Parce que Dieu nous dit, vous n'avez pas été fait pour vivre comme ça. Je vous ai créé pour vivre dans un monde parfait, auprès de moi. Mais pourquoi l'on sent tous que tout nous tourne pas rond dans notre monde? Pourtant, on n'a connu que ça. On n'a connu que ça, le monde tel qu'il est. Et c'est Chesterton qui disait, on a le mal du pays, on a le mal d'un pays qui n'existe pas. Tout simplement parce qu'on a été créé à l'image d'un Dieu parfait pour vivre dans un monde parfait auprès de lui. Oui, par la foi, Seigneur, nous croyons que toi, tu as fait les cieux et la terre. Deuxièmement, c'est un acte de foi. On l'a vu. Mais c'est un acte de foi en quelqu'un de sûr. Ce verset nous dit: Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce n'est pas une foi en quelque chose de douteux, comme une théorie farfelue qui est le produit de l'imagination des hommes. C'est une foi en quelqu'un, en une personne qui était là avant que tout ne soit. Au commencement, avant que les choses ne commencent. On pourrait dire avant le début, avant que le début ne commence, lui, il était déjà là. Lui, il était déjà là. Il est éternel. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Qui est mieux placé pour nous conduire dans la vérité? Est-ce que ce sont les hommes, livrés à leurs petits yeux, à leur petit cerveau, ou bien celui-là qui était, qui est et qui sera? Qui est habilité pour nous conduire dans la vérité? Qui est mieux placé que votre oncle pour vous expliquer comment cette table a été faite? Qui? Personne d'autre. Vous aurez beau aller voir les voisins qui vont vous expliquer, ils vont donner pas mal de théories. Oh, peut-être ce pied a été placé comme ça a été posé là, et puis là, soulevé comme ça, il a mis dans cette position-ci, avec tel et tel. Ce sont que les théories. La seule personne habilitée à vous dire comment cette table a été faite, c'est votre oncle qui vous l'a envoyé. N'est-ce pas? S'interrogeant comme un vaillant homme, je t'interrogerai et toi, tu me répondras, dit l'Éternel. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence, qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le ruban à mesurer? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Qui a fermé la mer avec des portes quand dans son jaillissement, elle est sortie du ventre maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Qui a ouvert un passage à la pluie et a tracé la route de l'éclair et du tonnerre pour que la pluie, sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe? La pluie a-t-elle un père? Qui fait naître les gouttes de la rosée? Détaches-tu les cordages de l'Orient et conduis-tu la grande ourse avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi les torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils et disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux? Pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble, qui peut faire toutes ces choses? Si ce n'est celui qui a fait les cieux et la terre. C'est une bonne baffe pour nous, n'est-ce pas? Et ça nous remet à notre place. Nous lui faisons confiance parce que c'est l'Éternel qui transcende nos limites. Il est infini, il est en dehors du temps. Il n'acquiert pas la sagesse avec le temps. Il n'acquiert pas l'expérience. Il est omniscient. Souvent, quand on parle d'éternité, on pense en une suite de temps qui ne se termine pas. Mais il est bien au-delà de tout ça. Ça n'a rien à voir avec l'éternité. Quand on pense à ce qui se passait avant la création du monde, on pense à l'éternité passée et après l'éternité à venir. Mais on est obligé en tant qu'homme de concevoir ces choses avec des présupposés de temps, parce qu'on vit dans un monde qui est temporel. Mais Dieu, il est au-delà de tout ça. Je ne sais même pas comment faire pour vous expliquer ça. Tellement il y a un fossé entre sa sagesse et la nôtre. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Ne doutez plus. Vous faites confiance en celui-là seul qui est habilité non seulement à vous informer sur votre condition, mais aussi à vous sortir de votre misère. Nous avons vu en ce premier verset que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est une déclaration de foi. Non seulement c'est une déclaration de foi, mais on a vu qu'elle est contraire à tous les autres systèmes de pensée qui sont eux aussi des déclarations de foi. C'est obligatoirement obligé de passer par là. Mais contrairement à ces autres façons de penser, ce n'est pas une foi aveugle. C'est une foi en celui-là seul qui est digne et en qui tout trouve un sens. Mais maintenant, vous me demandez, c'est bien de savoir toutes ces choses, mais qu'est-ce que cela implique pour nous de savoir que Dieu a fait les cieux et la terre? Qu'est-ce que ça implique pour nous de savoir toutes ces choses? Et c'est notre dernier point. La manière dont on vit dans notre société aujourd'hui est totalement cohérente avec la confession de foi qu'elle a acceptée. La France a dit Dieu n'existe pas. Et la manière dont elle vit est cohérente avec ça. Et il y a trois pièges dans lesquels souvent, en tant que chrétien, on tombe facilement, sans discernement, trois manières de vivre que nous devons vraiment remettre en question. Et ces trois choses, premièrement, l'autonomie de l'homme. L'autonomie de l'homme. Cette manière de penser, ce gros mensonge, veut qu'on croie que nous sommes des créatures indépendantes. Parce que nous sommes indépendantes, on a le droit de vivre comme on veut, de faire ce que nous voulons avec notre vie. Mais on voit que c'est un mensonge qui découle d'un autre mensonge, n'est-ce pas? Si Dieu était là avant et est le créateur du ciel et de la terre, alors nous n'avons pas le droit de penser, d'agir, de désirer comme si cela était le cas. Nous n'avons pas le droit de vivre de cette manière. Ça change complètement la manière de vivre, de savoir que Dieu a fait toutes choses. Un exemple. Vous êtes dans une position où mentir vous sortira d'affaire. Et Dieu vous dit, c'est moi qui l'ai fait cette bouche. Tu n'as pas le droit de professer un mensonge avec cette bouche, parce que je l'ai créée pour bâtir dans la vérité et non pour détruire. Ça change complètement les choses, n'est-ce pas? de savoir que c'est Dieu qui l'a fait, il l'a fait pour un but. Première chose, l'autonomie de l'homme. Deuxième chose, le relativisme. Vous avez sûrement entendu ces paroles. La vérité absolue n'existe pas. Chacun a chacun ses idées tant que cela ne fait de mal à personne. N'est-ce pas? Cette façon de penser vous fait croire que toute idée est autant valable qu'une autre et que nous sommes tous libres de choisir dans un buffet d'idées ce qui nous convient et créer notre propre monde avec. Hein, c'est un buffet, chacun prend ce qui lui plaît. N'est-ce pas? Si Dieu était là au commencement et si tout l'univers et tout ce qui existe lui appartient, alors ce qu'il dit est vrai. Donc par nature, tout ce qui ne va pas dans son sens est faux, n'est-ce pas? Il y a une vérité et il y a des mensonges. La prochaine fois que quelqu'un vous dira, il n'y a pas de vérité absolue, demandez-lui si c'est vrai. Et vous verrez comment il réagira. C'est absurde de donner une vérité absolue en disant qu'il n'y a pas de vérité absolue, n'est-ce pas? C'est complètement absurde, mais c'est à ça que ressemble le monde aujourd'hui sans Dieu. Complètement à côté de la plaque. Troisième mensonge, l'autosuffisance. L'autosuffisance, voilà comment on vit aujourd'hui. L'autosuffisance nous incite à croire que on peut nous en sortir, on peut de nous-mêmes nous en sortir. La force est en toi, c'est le maître mot de toutes les thérapies modernes. La force est en toi. Il y a pas mal de films qui le sortent aujourd'hui. Je ne donnerai pas le titre, Star Wars, c'est sorti. Mais en fait, ce genre de film, en fait, encourage cette manière de penser. Et c'est aussi le slogan préféré de Disney. Va chercher au fond de toi, tu verras que tu peux accomplir des choses. Si Dieu est la source de la vie, si Dieu, nous sommes le résultat de sa créativité, alors, nous sommes complètement dépendants de lui pour la vie. Nous sommes dépendants de lui pour notre identité. Et nous sommes dépendants de lui pour le sens de la vie et pour tous nos besoins. Complètement. Lorsque vous regardez même les trois premiers chapitres du livre de la Genèse, vous allez voir que Adam et Ève étaient totalement dépendants de Dieu. Même dans un monde parfait, on n'était pas autosuffisant. On a besoin de Dieu pour vivre, parce que lui, il a fait toutes choses. Que nous sommes loin, loin, loin des créatures que nous devons être à l'égard de notre Créateur. Et on est encore bien loin quand on se rend compte que Dieu lui-même est venu sur cette terre vivre et enseigner comment vivre une vie de créature. Une vie de créature parfaite en la personne de Jésus-Christ. Parce que oui, Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme qui est venu jusqu'à nous. Jean nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu est venu parmi nous vivre une vie de créature. Jésus-Christ n'a pas vécu une vie d'autonomie. Loin de là, il est resté soudé au Père. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il n'a pas vécu une vie de relativiste. Toutes les idées se valent, chacun doit penser ce qu'il veut. Il dit, maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, du Père. Il dit aux Juifs qui ont cru en lui, si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Il y a une vérité, il y a des mensonges. Jean 8. Il est complètement dépendant du Père. Pas du tout autosuffisant. Dieu qui vient vivre une vie des créatures, souvenez-vous. Notre Père qui es aux cieux, donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Quel exemple! Et quel bonheur de savoir que notre représentant en tant que créature rachetée Lorsque Dieu nous regarde en tant qu'Église, il voit Jésus-Christ, la créature parfaite, Dieu fait homme. Dieu fait homme. Lui qui est ce que le Père a toujours voulu pour ses créatures. Combien nous sommes reconnaissants et combien on a envie de lui ressembler. Combien on a envie de lui ressembler. Il a fait ce qu'on était incapable de faire. Et c'est parce qu'il a fait qu'aujourd'hui on peut se tenir devant le Créateur en tant que créature. En tant que créature rachetée par celui-là qui nous a fait et qui nous a aimés. Merci pour ta parole, Seigneur, et merci parce que Jésus-Christ nous a redonné cette identité que nous avions volontairement perdue. Nous nous sommes éloignés de toi, errants comme des brebis égarées, loin de la maison du Père. Nous ne savions même pas qui nous étions. Nous étions abandonnés à nos passions, esclaves du péché. Mais toi, tu es venu vers nous. Tu as vécu cette vie parfaite de créature. Tu nous as redonné un espoir. Tu nous as sauvés. Tu nous as ramenés à la maison. Donne-nous vraiment de t'honorer dans notre vie, de refléter ce que tu as toujours voulu, cette dépendance vis-à-vis de toi, et de montrer aux autres personnes de la création qui t'ont rejeté qu'ils ont un Père et un Père aimant. Qui veut sauver. Que la gloire te revienne, notre Père, dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui peut sauver. Amen.